Il y a parfois cette fatigue indicible, un matin au réveil. Ça vous est déjà arrivé? Cloué, collé, plaqué au matelas. Impossible de bouger, c'est comme si la gravité avait triplé. Ce poids énorme sur la poitrine, les épaules. Cette boule immense dans la gorge. Je l'ai frôlé souvent, je l'ai évité toujours. C'est le burn-out. Mais qu'est-ce que c'est ce burn-out? La faiblesse du travailleur, de la travailleuse qui refuse de se frotter à la réalité professionnelle? Ou la rançon du héros, de l'héroïne qui s'est brûlé les ailes dans son travail?
Il existe depuis 2 ans une définition harmonisée au niveau européen, même plus dans les 34 pays. Les experts se sont mis d'accord pour dire que le burn-out, c'est un état d'épuisement psychique et physique lié à une exposition prolongée aux problèmes liés au travail.
Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme aussi parfois un mal-être en réponse scientifique et workaholic. Microsciences, un podcast de la RTS. Irina Gouzeva-Canou est professeure d'épidémiologie professionnelle à l'Université de Lausanne. Elle est aussi responsable du secteur académique à Unisanté, le centre universitaire de médecine générale et de santé publique. Avec ses collègues, elle vient de publier un rapport sur la prise en charge des burn-out auprès des professionnels de la santé en Suisse. Professeur en épidémiologie? On parle donc bien d'une épidémie de burn-out?
Environ 25% de la population active suisse présente ou disent qu'ils ressentent très souvent ou souvent l'épuisement émotionnel. Ce n'est pas le burn-out, c'est une de ses composantes. Certes, elle est très importante, mais un quart de la population active, c'est beaucoup.
Non, c'est énorme. Si on applique cette statistique à notre équipe dans le studio, l'un ou l'une de nous serait en souffrance.
Et en fait, on a vu que les formes sévères, c'est-à-dire celles qui vont s'adresser pour chercher une aide professionnelle, médicale ou psychologique ou psychiatrique, ils sont de l'ordre de 3%. Donc on serait dans une fourchette entre 2 et 6% de la population active, mais ça, ce sont des formes sévères.
Nous sommes donc bien face à une épidémie. Le terme de burn-out est né dans les années 60. Cela signifie être consumé par le travail. Moi, je trouve que c'est assez parlant. Mais j'avoue que j'ai de la peine à dire ce que c'est au juste. Parce que des coups de mou au travail, il faut bien l'admettre, on en a tous.
Le burn-out et ses signes avant-coureurs, c'est l'incapacité de récupérer après des périodes de loisirs ou de week-end. Donc si les activités avec la famille, avec des amis et les week-ends ne permettent pas de récupérer, qu'il y a toujours cette sorte de rumination, des pensées négatives, une aversion, un état soit d'agressivité, soit de dépressivité, qui sont là et que la personne ne dort plus, bah, c'est ça qui va faire penser au burn-out plutôt qu'à un coup de mou, comme vous dites, ou une fatigue justifié par beaucoup de travail fourni.
Mais c'est difficile, je trouve, de faire la part des choses.
Dans ces états précoces, les personnes ne consultent pas beaucoup et sont très souvent dans un déni de ce qui se passe avec elles-mêmes parce qu'ils veulent au contraire contrecarrer ce qu'ils observent chez eux. Ils constatent qu'il y a un certain dysfonctionnement, que tout ne va pas comme avant, qu'ils résistent moins bien à certaines choses qu'ils voient, que certains conflits leur portent plus préjudice et sont plus sensibles, ils deviennent plus irrités et ils supportent moins. Mais ils n'arrivent pas encore à voir qu'il y a déjà une souffrance qui s'installe. Donc ils résistent à cela et quelque part ils aggravent leur état.
Avouez, on a toutes et tous été dans un déni à un moment donné, en se disant que ça va le faire. Et c'est insidieux. Le fait de ne pas arriver à récupérer lors des moments de repos, de congé, est un des symptômes. Mais il y en a d'autres. Il y a ce sentiment d'urgence, ce que moi, je qualifie parfois d'apnée du travail.
On fait des choses, on est comme un hamster dans son tambour, on court tout le temps et on oublie pourquoi. au nom de quoi, pour quelles valeurs. Et si les valeurs que nous avons ne correspondent plus avec ce qu'on est en train de faire à cause de toute cette accélération, bah, on dit mais ça n'a pas de sens. Et cette perte de sens, on la voit dans beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité maintenant, parce que les gens font juste pour faire, garder leur travail, rester au travail, tout en se refusant presque d'admettre que ça n'a plus de sens. Et c'est quand la crise arrive que là, ils peuvent se rendre juste compte très brutalement et de manière très douloureuse que ça a perdu tout le sens d'aller à ce travail.
L'équation est posée. Trop de travail, on ne récupère pas, on s'agite, on se fatigue. Et on en vient à réaliser que tout cela ne sert à rien. Ça n'a plus de sens. Et ceci peut nous mener loin, plus loin, jusqu'à la chute.
Le cœur de la symptomatologie du burn-out, c'est une grande fatigue émotionnelle, une usure psychologique à laquelle s'associe aussi tout un tas de symptômes de l'ordre psychosomatique avec des douleurs du ventre, des maux de tête, des choses comme ça, qui du coup ramènent le burn-out d'un tableau plutôt psychologique, émotionnel, vers quelque chose qui serait somatisé et qui pourrait amener au final dans un cabinet médical. Assez souvent, le burn-out est découvert comme un état de crise qui empêche tout fonctionnement normal. Les personnes n'arrivent même plus à sortir leur chien. Ils sont paniqués à l'idée de devoir retourner au travail. Et le burn-out, dans sa forme expressive, clinique, aussi sévère, c'est vraiment quelque chose qui est une crise. Une crise qui arrive au bout d'un long processus de souffrance, de lutte et de résistance contre des conditions au travail qui semblent ne pas être en adéquation avec son socle de valeur, avec ce qu'on a appris de ce métier, avec les conditions dans lesquelles on aimerait exercer ce métier. Et c'est aussi pour cela que les métiers les plus touchés sont les métiers de soins, de l'aide à l'autre, les métiers dans la sphère humanitaire.
Et curieusement, la banque est le premier secteur victime du burn-out en Suisse. Je n'aurais jamais pensé à la banque avant les soins et l'humanitaire.
Dans la banque, on sait qu'il y a des investissements, il faut être rentable. Un jeune trader, on peut lui pardonner de perdre un peu d'argent au début, mais on ne peut pas lui pardonner de perdre tout le temps de l'argent. Donc il va avoir une pression qui vienne dans son contrat de travail de gagner, de devoir gagner de l'argent. Parfois, il doit faire des choses à risque. Parfois, il ne les ferait pas pour lui-même, donc il va rentrer dans des conflits moraux, dans les conflits de valeurs. Puis parfois, il doit séduire un client dans le sens de lui vendre peut-être des produits financiers auxquels il ne croit pas. Avec l'expérience, certains arrivent et puis d'autres n'arrivent pas. Et puis à la première erreur, deuxième erreur, une sanction peut venir du supérieur. Et puis il peut se monter une spirale destructrice avec des collègues qui vont peut-être développer des comportements d'éviction, d'isolement, de mépris. Et tout cela peut amener la personne à s'interroger qu'est-ce qui se passe, à lui faire douter de lui-même, perdre sa confiance, perdre l'estime de soi. Et puis dans ce cercle vicieux, il va devoir prouver le contraire, il doit faire encore plus, donc il va peut-être même travailler les week-ends et s'épuiser encore plus. Donc là, il va rentrer dans un état d'épuisement physique parce qu'il ne dort pas, parce qu'il rumine, parce qu'il s'isole, il doute de lui, il n'ose pas en parler, donc il n'évacue pas. Bien évidemment, il ne va pas chercher de l'aide pour dire « Ah, j'arrive pas, je suis nul », parce que c'est ce que la personne croit, jusqu'à développer peut-être des ulcères, des cancers. Et puis, il y a plein d'histoires dans des livres de psychiatrie ou de psychologie au travail avec des exemples comme cela.
Si je comprends bien le mécanisme et la spirale infernale qui mène au burn-out, je ne comprends pas vraiment la différence entre un burn-out et une dépression.
J'aimerais bien le savoir. Nous avons des études en cours pour élucider la question. Mais la plupart des personnes qui connaissent bien le sujet, les psychiatres, les psychologues, disent que si la dépression affecte l'ensemble de fonctionnement de la personne dans toutes ses sphères de la vie, le burn-out reste cantonné à la sphère professionnelle. Même s'il a les retentissements sur le fonctionnement pendant les crises où la personne ne peut rien faire, quand même, elle est capable encore d'aller au cinéma alors qu'elle est incapable d'aller au travail. La personne déprimée aura une absence de libido totale à tous les niveaux. Donc c'est là-dessus que la distinction pourrait se voir. Les spécialistes de la santé au travail pensent que ce sont des choses plutôt séparées. Et c'est aussi le résultat de notre enquête où les psychologues et les médecins suisses qui prennent en charge les personnes en burn-out étaient très majoritaires à dire que ce sont des choses bien séparées et que la dépression très souvent découle du burn-out.
Et le cerveau dans tout cela, c'est là que tout commence. Avec les outils actuels, on doit peut-être voir les signes de ce burn-out ou ces signes avant-coureurs, tout ça dans ma boîte crânienne.
Ces études, bien qu'elles existent, ne sont pas très nombreuses et souvent elles sont conduites sur un nombre limité des sujets qui doivent se prêter à des techniques d'imagerie, souvent par IRM. Et effectivement, trouver des personnes en burn-out qui veulent exposer leur cerveau à l'IRM pour voir qu'est-ce qui s'y passe ne sont pas très nombreuses. Mais il se trouve qu'il y a une étude qui a été publiée cette année au Japon qui a justement pu regarder un certain nombre de personnes en burn-out qui disent qu'on peut voir dans les zones préfrontales, par exemple, des ralentissements de l'activité, une diminution de la matière grise, aussi une diminution de la nutrition gliale, donc des cellules qui enveloppent les neurones, qui leur donnent du nutriments, une baisse aussi du débit sanguin qui sert aussi à alimenter donc nos neurones.
Et ce cortex préfrontal sert au contrôle des émotions. Il est fatigué et mal nourri. Au fond, il reflète tout ce que notre corps a subi.
Et puis aussi au niveau, on va dire, neuro-endocrinien, c'est-à-dire avec des hormones, on peut voir les variations de certaines hormones, type cortisol par exemple.
Le cortisol, c'est un peu l'hormone du stress. C'est lui qui vous empêche de dormir, parfois.
Et également, il y a les études qui montrent au niveau biologique des modifications épigénétiques sur l'ADN. Et il y a une équipe en Belgique qui fait des études comparatives entre des personnes en dépression et des personnes en burn-out. Et en Belgique, il y a le diagnostic du burn-out, c'est reconnu là-bas comme une maladie professionnelle. Et donc, il montre que des changements épigénétiques sur l'ADN des personnes en burn-out sont différents de celles qui sont déprimées.
On suppose que le burn-out laisse sa signature dans le cerveau et sur notre ADN. Une forme de stress qui, comme le stress en général, pourrait laisser des traces dans le matériel génétique des générations futures. Mais ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de savoir qui va faire un burn-out. Y aurait-il des personnalités plus à risque?
Beaucoup de spécialistes s'accordent sur le fait que le burn-out ne doit pas être individualisé par rapport aux traits de la personnalité. Bien sûr, il y a des personnes perfectionnistes, il y a des personnes qui le sont moins, il y a des personnes qui ont un grand appétit pour accomplir des grandes tâches, on les appelle workaholics, ou sont juste les personnes très enthousiastes, qui aiment se distinguer, qui aiment être les premiers, les esprits compétiteurs, donc on rencontre tout. Mais la plupart des personnes disent que non, quand même, c'est souvent le contexte professionnel, tous ces risques psychosociaux qui génèrent le stress qui affecte la personne et qui résulte. Et au milieu professionnel, il y a certains secteurs d'activité, certains métiers où ce stress est plus élevé qu'ailleurs.
Et c'est un truc de jeune ou de vieux, le burn-out?
La tranche d'âge qui est la plus concernée, c'est la tranche de 24 à 44 ans. Mais il y a les différences selon le sexe. On sait que les femmes sont stressées un petit peu avant et un petit peu après, et les hommes un peu au milieu de cette tranche d'âge, donc on voit ces spécificités. C'est là qu'on découvre la réalité de l'exercice professionnel. On sort formé, diplômé, on a appris à être policier, à être infirmière, à être médecin, à être vétérinaire ou éducateur. Et puis on a appris la théorie, on a eu un petit peu d'exercice pratique. Et là, on découvre le grand bain, qui est souvent perçu comme frustrant, qui est perçu sans enjoliveur tel qu'il est, avec le déficit des ressources, avec la pression du temps, avec la pression économique, parce qu'il faut faire plus vite avec moins de choses et moins de personnel.
24 à 44 ans. Un peu plus de la moitié de la vie professionnelle est à risque, quoi. Sans vouloir vous révéler mon âge, serais-je hors de danger ?
C'est là que votre personnalité peut venir en aide comme médiateur si vous êtes relativement compassionnel envers vous-même, sans dire que vous n'êtes pas du tout exigeante envers vous-même, mais c'est-à-dire vous vous accordez les moments de repos, vous vous accordez la possibilité de dire « ok, aujourd'hui je fonctionne un petit peu plus lentement, je ne fonctionne pas aussi vite ». Et puis, je ne veux pas m'énerver. Alors, là, la personnalité, elle peut aider. Et puis, d'autres personnalités qui sont intransigeantes avec soi-même, très, très exigeantes avec les autres, bah, là, ils auront plus de mal parce que, justement, cette rigidification, elle se voit dans l'évolution vers le burn-out. Et il y a même, on peut dire, une certaine étape où on passe par cette routinisation, rigidification, qui aide un peu à supporter la réalité avec ces rituels qu'on installe un petit peu pour se simplifier la vie, pour être un peu plus dans le mode auto-pilote.
En gros, il n'y a pas vraiment d'âge et pas vraiment de personnalité qui nous mettent complètement hors de danger. On doit toutes et tous être vigilants, à l'écoute de soi. Et puis, il y a tout ce faisceau d'indices qui peuvent nous suggérer qu'on va vers un burn-out. J'emporte quand même souvent mes problèmes professionnels avec moi pendant mes congés. Je néglige ma famille, mes amis, mes relations, au profit de mon travail. Je me sens nerveuse, épuisée, fatiguée. J'ai de plus en plus de mal à me motiver pour mon travail. J'aurais pas été un peu cynique là. Faudrait peut-être que j'arrête d'être sarcastique dans les sens. Je refoule mes besoins personnels et ça depuis longtemps. Ma mémoire est moins bonne qu'avant. Je suis continuellement surmenée. Je n'arrive pas à m'endormir. Je me réveille 15 fois par nuit. Je suis quand même hyper susceptible. Je pourrais prendre un médicament. Je suis nulle. Peut-être que ça m'aiderait. Ok, mais à ce stade-là, si on est proche du burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire ?
C'est pas votre faute personnelle, c'est pas forcément la faute de votre employeur ou de votre collègue. Cela arrive parce que nous vivons dans un monde où tout doit aller très vite, où on doit être connecté tout le temps, où il y a la pression, où on manque de ressources. Et maintenant, on a cette catastrophe écologique qui arrive, dont on est aussi tous responsables et irresponsabilisés. Donc voilà, les stresseurs, ça ne manque pas. Et si les personnes savent que, bah oui, personne n'est à l'abri de burn-out, surtout dans certains secteurs à risque, comme le banque, l'assurance, l'éducation, le transport, eh bien, dans ces secteurs, bah, il doit y avoir une vigilance accrue à ce risque et tout doit être mis en œuvre pour l'éviter. Et au niveau individuel, si je me mets à la place de quelqu'un qui est à risque de burn-out, bah, je dois savoir, à mon propre niveau, comment me protéger de cela. Et puis, dès que je commence, par exemple, à ruminer un problème, à ne pas savoir le gérer toute seule, bah, il faut que je sollicite les ressources qui sont disponibles dans mon entourage, sur mon lieu de travail, la médecine du travail, peut-être les ressources humaines qui peuvent aider, parler à son supérieur hiérarchique, parler à la personne de confiance. En Suisse, maintenant, nous avons ce dispositif de personnes de confiance. Donc, il faut les solliciter. Et puis, si dans le milieu de travail, les ressources qui sont disponibles ne nous donnent pas assez de confiance ou qu'on préfère consulter ailleurs, c'est bien d'aller parler avec un professionnel, parler avec un psychologue, dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'est-ce que c'est ? Comment s'en sortir ? Où est l'origine de cela ? Et plutôt s'attaquer à l'origine. Et puis si on se rend compte, malheureusement, parfois ça arrive, qu'on est dans un environnement toxique, où on ne pourra rien faire, eh ben, il ne faut pas rester dans cet environnement.
C'est plus facile à dire qu'à faire. Parfois, on n'a pas le choix. Et parfois, on s'écroule. Et ça peut prendre du temps de se relever.
Ça peut être très, très long. Il y a des études qui montrent que parfois, sortir d'un burn-out peut prendre 2, 3, 4 ans. Certains n'en sortent jamais. Mais ensuite, qu'est-ce que c'est sortir d'un burn-out ? Certains disent ah ben c'est quand la personne revient au travail. Mais est-ce que c'est en même place où elle était ou est-ce qu'elle trouve un autre travail ? Ben, les deux sont valables. Et puis d'autres disent eh ben c'est quand mon patient retrouve un sourire. Et là, c'est une autre vision de voir comment on sort du burn-out parce que c'est un épuisement. C'est un vide émotionnel, psychologique, cognitif, physique, physiologique. Donc reconstituer ce vide, se remplir des émotions pour être à nouveau capable de vivre, de sourire, de respirer et de travailler, tout ça c'est progressif. Mais il y a beaucoup d'exemples où on peut sortir du burn-out, comme il y a aussi des exemples où on peut rechuter.
Donc on peut se prendre les pieds dans son activité professionnelle plusieurs fois ?
Oui, les rechutes sont possibles et sont d'autant plus possible que le retour au travail n'est pas bien préparé ou qu'il n'est pas accompagné. Et il y a deux cas de figure assez paradoxales. C'est qu'il y a des personnes qui, des fois, reviennent au travail après le burn-out. Ils font un bore out. Ils disent, mais on m'a tellement voulu protéger qu'on m'a mis au placard. On m'a tellement enlevé les tâches et les responsabilités pour pas que je m'épuise à nouveau, que j'avais rien à faire. Et puis, il y a aussi le retour dans la même structure, avec les mêmes problématiques, avec un même superviseur ou un collègue qui pourrait être pervers ou manipulateur, et où juste on retrouve tout le contexte qui a généré le problème, parce que la cause n'a pas été traitée.
Et là, moi, j'ai assez envie de chercher un ou une coupable.
Le coupable peut être une surcharge de travail ou un manque de reconnaissance. Parce que j'ai voulu citer comme exemple des conflits interpersonnels qui est une bonne source de stress au travail, mais ce n'est pas la seule. La surcharge de travail est souvent présentée comme le stresseur le plus important parce que tellement il y a à faire que la personne amène le travail chez elle, travaille le week-end, ne se repose jamais, il se fatigue à cause de ça, à cause d'avoir trop travaillé. Ou alors, l'autre situation, c'est quand la personne travaille beaucoup et puis elle espère une récompense, un bonus. C'est tout à fait le système des banques et d'assurance d'avoir des bonus et des primes lorsqu'ils font une très bonne productivité commerciale. Et puis, cette récompense ne vient pas. Et puis, c'est par exemple très, très présent dans le milieu des soins parce que tout ce personnel soignant, surtout des infirmières, des aides médicaux, ils font énormément de travail. Mais ce travail, le soin à la personne, il est invisible. Comment on peut le reconnaître? Surtout dans les soins intensifs où le patient ne bouge pas. Il ne peut pas sourire, il ne peut pas cligner les yeux, il ne peut pas montrer la reconnaissance. C'est clair que ces personnes, ils ne font pas des gestes chirurgicaux qui peuvent être comptabilisés, que la personne sort de l'hôpital, on remercie avec des fleurs. Ce sont des choses invisibles, donc la reconnaissance, elle est insuffisante. Et c'est ce manque de reconnaissance qui peut aussi amener le burn-out en disant « Mais pourquoi je fais tout ça? Mais combien de temps je peux faire tout ça ?»
Je ne sais pas combien de temps on peut tenir. Je ne sais pas si je trébucherai un jour ou pas. Mais je me dis peut-être qu'il faudrait prévoir des coussins pour le jour où je chuterai. Et curieusement, cette chute professionnelle n'est pas toujours reconnue comme une maladie. Car c'est une maladie, non ?
C'est très difficile de répondre parce que quand je vois des personnes et la souffrance qu'ils décrivent, la souffrance qui ne peut être traitée que médicalement, les deux traitements les plus prescrits par des professionnels de santé suisse sont l'arrêt maladie et les antidépresseurs, donc la médication. On ne prescrit pas ces traitements à quelqu'un qui n'est pas malade. Officiellement, l'Organisation mondiale de la santé ne reconnaît pas le burn-out comme maladie. Mais vous savez, dans ces classifications des maladies psychiatriques, les maladies sont inscrites suite à un processus de négociation, de débat, et ce n'est pas toujours très transparent comment les décisions sont prises. Et si on fait la comparaison avec le trouble anxieux généralisé, c'est aussi quelque chose qui est inscrit, mais qui a failli être éjecté de cette classification parce qu'il manque aussi de spécificités, de critères diagnostiques précis. Mais la différence peut-être, c'est que pour la dépression, il y a les antidépresseurs et pour l'anxiété, il y a les anxiolytiques. Et pour le burn-out, on n'a pas encore de médicaments et on peut y voir la non-nécessité de médicaliser puisqu'on ne peut pas donner de médication.
Il y a une forte résistance à parler de maladie quand on parle de burn-out. Pourtant, le phénomène est là, sournois. Je retiens, parmi les symptômes, le manque de récupération, la fatigue émotionnelle, le sentiment que tout cela ne sert à rien et une touche de cynisme. En préparant cet épisode, j'ai compris peut-être où sont mes limites. Et je vous souhaite à vous aussi de les connaître. Vous trouverez des liens dans le descriptif de cet épisode. Ils vous seront peut-être utiles.
Pourquoi l'odeur de cannelle fait palpiter ma mémoire? Jusqu'où va le ciel? Ma grand-mère influence-t-elle ma vie? Les animaux se cultivent-ils? Pourquoi je joue sur mon téléphone portable? Suis-je conne? Qui m'enverra la prochaine question de Microscience?
Peut-être souhaitez-vous m'envoyer un email pour me dire ce que Microscience vous inspire ou pour me souffler une question légère ou grave dont vous souhaitez trouver la réponse scientifique. Écrivez-moi à microscience@rts.ch, microscience au pluriel et en un seul mot. Si cet épisode vous plaît, vous parle, vous fait écho, partagez-le et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Play RTS ou Spotify. Ils sont mes parachutes, mes coussins, mes filets de sécurité et veillent à ce que je ne trébuche pas. Jérôme Nussbaum, habilleur musical et réalisateur, doux comme un Théo Sarrazin. À la coproduction, Grégoire Moll, présent dès la première minute de ce podcast, qui me confie à présent à Camille Dupont-Lahitte. Bienvenue à elle. Prenez soin de vous et à très bientôt.